Chapitre 4. Monsieur Borel, banquier de Lyon, plusieurs fois millionnaire, occupé avec sa femme et son fils l'un des deux appartements du premier de la maison du bon Dieu. La famille réunie déjeunait dans la salle à manger. Monsieur Borel a 60 ans, sa femme quelques années de moins que lui. Leur fils Alexis a dépassé l'âge de sa majorité. « Ma foi, mes amis, dit le banquier, cet appartement est si confortable, cette maison si parfaitement tenue, que j'ai grande envie de faire une folie. Voyons la folie, mon père. Je n'ai loué ce logis que pour 3 mois, appelé momentanément à Paris pour mes affaires, et surtout afin de soumissionner le nouvel emprunt du gouvernement. Mais comme je suis toujours obligé, chaque année, de résider à Paris pendant 1 ou 2 mois, sans compter d'autres voyages de quelques jours, je suis presque résolu à garder cet appartement toute l'année, au lieu de courir d'hôtel garni en hôtel garni. Qu'en pensez-vous? Je pense, mon ami, que lorsque, comme toi, l'on a gagné une fortune considérable par son travail, et surtout avec une probité de plus en plus rare de nos jours, il est bien permis de se donner quelques satisfactions. Et ce bon père qui taxait de folie ce désir si simple. Ainsi, vous êtes tous deux d'avis qu'il faut garder cet appartement à l'année, mon ami, puisqu'il te plaît, répond Madame Borel. Je te demande un peu, que nous importe une dépense de quelques milliers de francs de plus ou de moins? Seulement, comme le loyer doit être considéré, en grande partie du moins, comme une dépense tout à fait de luxe, ah ah, Madame Borel, dit en riant le financier, je vous vois venir à pas de loup, avec vos pauvres sur vos talons. N'est-ce pas notre convention, mon ami? Distribuer en secours bien placés une somme égale à celle que nous dépensons pour nos plaisirs ou pour notre superflu. Chère mère, tu es dans ton droit, reprend gaiement Alexis. Le loyer de l'appartement est de 3 000 francs par an, n'est-ce pas? Oui. Or, admettons que lors des séjours indispensables que mon père ou moi nous faisons à Paris, nous dépensions environ 1 000 francs chaque année pour notre logement en garni. Il reste une différence de 2 000 francs pour atteindre le chiffre de notre loyer actuel. Est-ce encore vrai, ma mère? Soit. Et tu en conclus? Je conclus que cette somme constituant une dépense essentiellement superflue, je créditerai ton compte des pauvres de 2 000 francs de plus par année. Pas du tout, s'écrie non moins gaiement M. Borel. Je proteste contre ces distinctions, contre ces subtilités. Voyons ta protestation, mon ami. La voici. Moi ou mon fils, nous passons en moyenne, et à diverses reprises, 6 semaines ou 2 mois au plus à Paris. Mettons en moyenne 6 semaines, à savoir 45 jours. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Oui, mon père. Eh bien, l'on peut trouver pour 3 francs par jour à Paris une excellente chambre garnie. Voilà le nécessaire. Donc, si je sais compter, 45 fois 3 francs font 135 francs. Est-ce vrai, madame ma femme? Très vrai. D'où il suit que sur les 3 000 francs de loyer de notre appartement de Paris, il faut défalquer 135 francs pour le nécessaire. Et en ce cas, mon ami, resterait au superflu 2 865 francs. Madame Borel, vous devriez vous appeler madame Barême. « Tant vous calculez promptement, reprend le banquier. C'est donc une somme de 2 865 francs dont mon fils voudrait bien créditer le compte de vos pauvres. Mais comme j'ai horreur des fractions, il créditera le dit compte de 3 000 francs. « Ah, mon ami, reprit Madame Borel avec émotion, ta générosité est inépuisable. Allons, ma femme, tu me rends honteux, tu me fais rougir devant notre fils. Beau mérite que le mien en vérité, ouvrir ma caisse et te dire « prends ». Mais, mon ami... « Mais, Madame Borel, je sais ce que je sais, que diantre. Est-ce que moi, je monte dans les plus misérables mansardes de la Croix-Rousse pour y secourir les indigents? Est-ce que je passe des heures entières au chevet de pauvres femmes malades? Est-ce que je possède comme toi, chère et bien-aimée femme, le génie de la charité? Génie délicat et touchant, il s'est épargné à l'infortune jusqu'à l'amertume de l'aumône qu'elle reçoit, et il ne lui laisse que la douceur de la reconnaissance. Encore une fois, mon rôle est par trop facile. » Ouvrir ma caisse, voilà tout. Mais cette caisse, bon père, qui la remplit, n'est-ce pas ton travail? N'es-tu pas à ton bureau dès le jour et avant le dernier de nos employés? N'es-tu pas l'âme, l'intelligence, la vie de la maison? Et moi, qui depuis 4 ans déjà, me suis initié au secret de tes affaires, ne sais-je pas que cette immense fortune dont tu fais un si noble emploi, tu la dois non seulement à un labeur assidu, à ton génie financier, mais que tu as eu d'autant plus de peine et d'honneur à la gagner, cette fortune, qu'elle est pure de toute spéculation. je ne dirais pas même douteuse, mais de toute spéculation qui ne put braver l'examen de la plus rigoureuse, de la plus ombrageuse probité. « Alexis, » dit M. Borel en rougissant, « mon enfant. « Ton fils a raison, mon ami, » reprend Mme Borel. « Faut-il te rappeler l'affaire du Mollard et compagnie ? Tu pouvais, en acceptant les offres de cette maison, réaliser un bénéfice certain de plus d'1 million et tu as refusé. Pourquoi ? Pourquoi ? » ajoute Alexis. « Parce qu'il répugnait à la délicatesse de mon père de s'associer à une maison dont le chef était un failli, cependant réhabilité par un concordat très honorable. Et l'affaire Morand ? Qui présentait de si importants bénéfices que les plus fortes maisons de banque de Lyon se la disputaient, reprend Mme Borel. On te l'offre, mon ami, et après avoir consacré plus de 2 mois à l'étudier, à la mûrir, te l'ai donné ta signature lorsque tu la refuses, en apprenant que l'un des cessionnaires se prétend et te semble lésé dans ses intérêts. Oui, et rappelle-toi, ma mère, qu'à ce sujet, la majorité du conseil d'administration prouva à mon père qu'au point de vue légal, la prétention dont il s'agissait était absolument inadmissible, qu'elle se bornait à une appréciation toute morale. Il n'importe, mon père met pour condition expresse à son engagement qu'il sera fait droit à cette réclamation. Le conseil refuse et mon père renonce à cette affaire. Désintéressement d'autant plus méritoire, ajoute Mme Borel, que cette affaire est reprise par la maison Barclay, certes des plus honorables. Il y a gagné des millions que de moins scrupuleux que toi auraient gagnés, sans qu'on pût leur adresser le moindre reproche. Et la proposition de la maison Engelmann de Francfort. Au moment où la femme et le fils du banquier exaltaient ainsi à l'envi et avec bonheur son irréprochable probité, son ombrageuse délicatesse, un domestique entre et s'adressant à M. Borel. L'homme de confiance du propriétaire demande à parler à monsieur. Voilà, mes amis, qui se trouve à merveille, dit à sa femme et à son fils M. Borel, semblant satisfait de cette occasion de se dérober à leur louange. Je vais demander à l'intendant de nous accorder un bail de 3 ans. Pauvre père, dit Alexis après le départ de M. Borel et du domestique, sa modestie souffre tellement de nous entendre le louer comme il mérite d'être loué, qu'il a été, j'en suis certain, enchanté de pouvoir nous échapper, mais nous le rattraperons. Ah, mon enfant, si tu savais combien je suis heureuse de voir que, comme moi, ce que tu apprécies, ce que tu admires le plus dans ton père, c'est l'honnête homme, dans la plus glorieuse acception du mot. En peut-il être autrement, chère mère ? Mon éducation entière n'a-t-elle pas tendu à enraciner en moi le culte, la religion, de la probité ? Combien de fois mon père ne m'a-t-il pas répété « Mon enfant, ne l'oublie jamais, dans la carrière des affaires, carrière si périlleuse pour la délicatesse, en raison d'une foule d'amorces offertes à la cupidité ?» Il suffit d'une seule opération entachée d'improbité pour vicier une fortune jusqu'alors honorablement acquise, de même qu'il suffit d'un atome de limon pour troubler la pureté d'une source. Et cette morale rigide, ton père l'a toujours prêchée d'exemple, répond Mme Borel avec l'expression d'une douce fierté. J'étais initié à ces affaires depuis le jour de notre mariage, et je n'ai pas vu ton père démentir une seule fois cette délicatesse, poussée, je dirais, jusqu'à l'exagération, si l'on pouvait appliquer ce mot à un sentiment d'une nature si élevée. M. Borel rentre à ce moment dans la salle à manger, disant gaiement à sa femme « Devine le but de la visite de l'homme de confiance de notre propriétaire. Que sais-je, mon ami ? Eh bien, il vient de la part de M. Wolfram nous inviter à passer aujourd'hui la soirée chez lui. Mais nous ne connaissons pas du tout M. Wolfram, dit Mme Borel, et cette invitation est bizarre, n'est-ce pas, mes amis ? Fort bizarre, mon père. « Et qu'as-tu répondu ?»« J'ai accepté, après avoir cependant d'abord refusé, très poliment d'ailleurs. »« Quel motif t'a fait changer d'avis, mon père ?»« Une pensée d'un machiavélisme affreux, » reprit en riant le banquier. « Machiavélisme que m'inspirait le désir de conserver cet appartement à l'année. »« Explique-toi, mon ami. »« Vous savez que, par une clause de notre location, nous pouvons donner ou recevoir congé chaque trimestre. » Cette clause nous a d'abord d'autant mieux convenu que nous ne devions rester à Paris que 2 mois. « Sans doute, » reprit Mme Borel. « Mais elle nous devient maintenant gênante, puisque nous songeons à louer cet appartement à l'année. Évidemment, aussi ai-je fait part de nos intentions à l'homme d'affaires, après avoir décliné l'invitation de son maître sous un prétexte très plausible. Et que t'a répondu l'intendant ?« Je ne pense pas que M. Wolfram se départe jamais du droit de pouvoir, chaque trimestre, donner congé à ses locataires. » C'est chez lui un principe invariable. M'a objecté M. Tranquillin. Cependant, si vous lui aviez, monsieur, fait l'honneur d'accepter son invitation, vous auriez pu, ce soir, lui exprimer votre désir, et peut-être y eût-il accédé. Fort bien, mon père, et par suite de cet affreux machiavélisme dont tu viens de te confesser, tu as accepté l'invitation de ce monsieur dans l'espoir d'obtenir de lui notre bail à l'année. Hélas, oui, j'avoue ma scélératesse. Eh bien, que veux-tu, mon ami, puisqu'il le faut, nous serons les complices de ta scélératesse. Et pour ma part, je me mettrai en frais d'amabilité, afin d'amadouer le farouche propriétaire. Ajoute en souriant Madame Borel. Je ne regretterai nullement mes coquetteries, car la fin justifie, dit-on, les moyens. Et si nous obtenons un bail d'un an, c'est 1000 écus de gagner pour mes pauvres. Ce monsieur Wolfram me paraît devoir être un homme très original, reprend Alexis Borel. Et son intendant ne t'a donné, mon père, aucun détail sur ce bizarre personnage? Aucun. Et à mes questions, il répondait constamment avec un flegme imperturbable. Si vous faites à M. Wolfram l'honneur d'accepter son invitation, vous vous renseignerez par vous-même de ce que vous désirez savoir. Enfin, j'oubliais d'ajouter que les invités de cette soirée se composent exclusivement des locataires de cette maison et de ceux de l'hôtel du jardin, M. le duc et Mme la duchesse della Sorga et leurs deux fils. En un mot, M. Wolfram réunit ce soir ses locataires afin d'avoir l'honneur de nouer connaissance avec eux. On ne peut en somme se montrer plus poli. Et moi, mon père, je suis maintenant enchanté de cette invitation. Pourquoi cet enchantement, mon garçon? Il me sera donné de voir de près et de contempler avec l'admiration le respect qu'il mérite l'un des plus grands hommes et des plus courageux patriotes d'Italie. De qui veux-tu parler? De M. della Sorga, d'abord condamné à mort, puis proscrit par le gouvernement napolitain, car le duc et son frère, qui a péri sur l'échafaud, étaient à la tête de cette conspiration. Et lui, il y a un an, beaucoup de retentissements dans les journaux. « En effet, » dit M. Borel, « je me rappelle maintenant ce nom de della Sorga. Il y eut même, hélas, si j'ai bonne mémoire, plus de 100 conspirateurs exécutés à cette époque. Hélas, oui, mon père. Maintenant, mon ami, je partage l'intérêt que t'inspire ce noble exilé, » reprit M. Borel. « Aussi, je m'applaudis doublement d'avoir accepté cette invitation. » J'ajouterai un détail qui doit augmenter notre vénération pour cette famille, dit Madame Borel. Ma femme de chambre me racontait hier que selon ce qu'elle a appris des domestiques de l'hôtel, Madame la Duchesse della Sorga, très belle encore, malgré ses 40 ans, était un ange de vertu, le modèle des mères de famille. Elle ne vit que pour ses deux fils. Sa charité est inépuisable. Chaque matin, cette dame sort à pied, modestement vêtue, afin d'aller entendre la messe d'abord, et ensuite s'occuper de bonnes œuvres, surtout en faveur de ceux des proscrits napolitains dont la misère aggraverait les malheurs de l'exil. En ce cas, cette grande dame a plusieurs points de ressemblance frappante avec certaines personnes de ma connaissance, sauf en ce qui touche la messe entendue chaque matin, dit M. Borel, regardant sa femme en souriant. Je ne m'attendais pas à ce que mon affreux machiavélisme dût nous introduire en si bonne et si haute compagnie. M. Borel, entendant sonner midi à la pendule, ajoute « Voici midi. Allons, Alexis, rendons-nous au ministère des Finances, où l'on prend à cette heure connaissance des offres des soumissionnaires de l'emprunt. Notre sort se décide en ce moment. Serons-nous adjudicataires? Là est la question. Nous avons soumissionné en notre âme et conscience, mon père. Advienne que pourra. Adieu, chère femme. Nous serons de retour de bonne heure. Et si tu as reçu de l'intendant de la liste civile cette permission que j'ai demandée, afin de pouvoir visiter le château de Monceau, que l'on dit si merveilleux en raison des tableaux et des objets d'art qu'il renferme, nous irons tous trois ensemble à Monceau. C'est convenu, mon ami. Encore adieu, dit le banquier en prenant son chapeau, et fais des vœux, madame ma femme, pour que la maison Jacques Borel et fils de Lyon soit adjudicataire de l'emprunt. De ces vœux de ma part, tu ne doutes pas, mon ami? Non. Mais ce dont tu ne te doutes guère, toi, c'est de ce qui t'attend, si le chiffre de notre soumission est accepté. Que veux-tu dire? Alexis, ouvre la porte, et laisse-la toute grande ouverte, mon garçon, dit le banquier à son fils. Et remarquant la surprise et l'hésitation du jeune homme, il ajoute avec une gravité comique, « Obéissez, monsieur mon fils, obéissez à l'instant, ou sinon, morbleu. » Épargnez-moi dans votre terrible colère, répond le jeune homme non moins gaiement, en allant ouvrir la porte de la salle à manger. « Votre ordre menaçant est exécuté, monsieur mon père. »« Très bien, car il faut toujours se ménager un moyen de retraite afin d'échapper au péril que l'on redoute. Puis le financier s'adressant d'une grosse voix à sa femme. Et maintenant, Madame Borel, retenez bien ceci, sac à papier. Oui, retenez bien ceci, madame. Dans le cas où nous serions adjudicataires de l'emprunt. Mais, s'interrompant, afin de se retourner vers son fils, le banquier reprend. La porte est-elle ouverte, toute grande ouverte, Alexis? Le passage est-il libre? Oui, mon père. Donc, Madame Borel, dans le cas où nous serions adjudicataires de l'emprunt, notre bénéfice devant être de 4 millions au moins, je mettrai à votre disposition 200 000 francs pour la fondation d'un hospice des ménages près de notre maison de campagne. Et courant vers son fils, qu'il prend par le bras et qu'il entraîne avec lui hors de la salle à manger, le financier s'écrie gaiement en s'enfuyant. « Sauf qui peut, mon garçon. Nous serions écrasés par une avalanche de remerciements dont nous accablerait ta pauvre mère. Sauf qui peut, sauf qui peut. » « Merci, mon Dieu, merci !» murmura d'une voix fervente et contenue Madame Borel, restée seule et les yeux pleins de larmes, joignant les mains avec force. « Vous m'avez récompensé au centuple du peu de bien que je fais en unissant ma vie à celle d'un pareil homme. »